jusqu'à 10h, à votre service sur France Bleu Pays Basque.
À l'heure quasiment du week-end, bienvenue. On descend au jardin ce matin. Depuis plusieurs années, les scientifiques nous alertent sur le déclin inquiétant de la biodiversité dans nos jardins. Les oiseaux Pays Basque n'échappent pas à ce phénomène et certaines espèces sont déjà en train de disparaître. Alors, qu'avez-vous observé dans votre jardin, sur votre terrasse? Je vous rassure tout de suite pour être avec nous ce matin pour témoigner. Pas besoin d'être ornithologue hein, pour partager un petit moment. Vous nous appelez au 59 deux fois, 17 deux fois et vous nous racontez ce que vous voyez de chez vous.
France Bleu Pays Basque, à votre service, avec Stéphane Clavry.
Et notre grand témoin ce matin, c'est Stéphane Maury, des Galaldia. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Pour nous, ce matin, spécialiste des oiseaux, on en discutait, on va en reparler évidemment tout au long de la matinée, mais on en discutait avant le début de l'émission. Moi, je vous dis que j'avais l'impression qu'on en voyait de moins en moins, en fait, d'oiseaux. Hein.
Alors, il y a certaines espèces, oui, qui sont réellement en déclin. On va dire les passereaux. On va, tous les grands rapaces et tout ça, à l'heure actuelle, sont sauvés, mais les passereaux, les animaux, les oiseaux de tous les jours qu'on a dans nos campagnes ou dans nos villes, oui, certaines espèces sont en déclin.
Bon, on va en parler ce matin. Venez nous raconter ce que vous observez, justement. Vous avez peut-être du recul, 10, 20, 30 ou 40 ans de recul. Venez nous dire, justement, comment ça a changé chez vous. Bonjour, Evelyne.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre, Evelyne. Je peux vous demander où vous habitez avant que vous ne témoigniez?
Alors moi je suis à Bacambo.
Vous êtes au Bacambo, très bien.
Oui, et nous avons plein d'arbres autour de nous. On a une haie de laurier palme qu'on laisse assez haute.
Oui.
Et on met des graines l'hiver, et ce qui fait qu'on a plein d'oiseaux.
Ah.
Alors on a des mésanges à tête bleue, des mésanges à tête noire. On a des tourterelles, on a des petits moineaux. Par contre, pas beaucoup de rouge-gorge. J'en ai que vu un ou deux cet hiver.
C'est marrant, vous parliez des
les graines et c'est amusant. Ils nous réclament pour qu'on mette quelque chose. Et alors, on a des merles et on en a un. Et il est rigolo parce qu'on met des croquettes de chat dehors. Et ben, il est coquin. Il vient juste sur la terrasse voler des croquettes de chat.
Il veut des croquettes de chat, d'accord. Okay,
oui, quand il n'y a pas de graines dans les mangeoires, il vient voler des croquettes de chat.
Alors, c'est intéressant, Evelyne. Je me tourne vers vous, Stéphane Maury. Evelyne dit, je nourris les oiseaux, vous l'entendez. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut comme ça nourrir les oiseaux l'hiver? Est-ce qu'il faut laisser quelques petites graines dans les haies, dans le jardin, des endroits bien précis?
Alors, bonjour Evelyne. Déjà.
Bonjour.
Alors, nourrir les oiseaux, c'est un avantage pendant les périodes de grand froid. Mmh. Par contre, les nourrir toute l'année, ça les stéréotype. C'est-à-dire qu'un oiseau qui va se, quand ils vont se reproduire, ils vont amener leurs jeunes sur la mangeoire. Et le jour où les gens arrêtent de les nourrir, ces oiseaux-là ne savent pas se débrouiller dans la nature. Donc, il faut vraiment faire attention. Après, pour le merle, voilà, ils adorent les croquettes, il n'y a pas de problème. Mais alors, il faut faire attention avec ça aussi, quoi. On est quand même dans une société qui se nourrit quand même beaucoup de cheeseburger, qui grossit. Et ben les croquettes pour les oiseaux, pour les merles, c'est un peu le cheeseburger pour nous, pareil. Donc ça va.
Faire... qu'ils en raffolent, mais c'est pas très bon pour leur santé.
Non,
c'est ça.
C'est ça, ça.
Oui, mais pas exprès. Hein. C'est parce que moi j'ai des chats qui sortent la journée, et donc eux ils ont des croquettes dehors. Et quand ils sont rentrés les chats, si je pense pas rentrer les croquettes, et ben il y a un merle, il vient en piquer.
Oui, ça, je m'en doute bien, mais il faut vraiment faire attention parce qu'ils vont faire du gras et ça peut, sur du long terme, vraiment poser du des problèmes pour les oiseaux. Quoi.
C'est assez extraordinaire ce que nous raconte Evelyne parce qu'elle arrive à faire cohabiter des oiseaux. Elle en a pas mal quand même dans son jardin, hein, mésanges, moineaux. Je vais pas répéter tout ce qu'elle nous a dit. Et des chats. Et souvent, c'est la cohabitation qui est compliquée, ça, Stéphane, non? Ça
me fait rire. Mais mes chats sont vieux maintenant, ils passent plus.
Bon, alors ça va, mais les chats restent quand même un gros problème en milieu urbain et périurbain, même en campagne dans certains secteurs où la prédation...
Mais vous pensez sérieusement, Stéphane, qu'aujourd'hui, si on a moins d'oiseaux en ville, c'est à cause des chats?
Ah non, c'est un panel de problématiques. Il y a les baies vitrées, il y a beaucoup de choses comme ça, et le manque de ressources alimentaires. On a des jardins, on a des parcs où c'est beaucoup des plantes exotiques, donc il n'y a pas d'alimentation pour la faune sauvage locale.
D'accord. Une dernière chose, Evelyne, là, que vous venez de nous dire, elle n'a pas vu beaucoup de rouge-gorge, et c'est exactement ce que je vous ai dit avant l'émission, Stéphane, pour en témoigner. Hein. Ils sont où les rouge-gorge? On en voit moins quand même qu'autrefois.
Alors, ça dépend des périodes de l'année. On a des populations qui sont sédentaires, ouais, ouais. Et les hivers, quand il fait froid, on a des oiseaux qui arrivent du nord et qui vont venir au Pays Basque. Donc des fois, certaines périodes où on a du grand froid, on va avoir des densités de rouge-gorge plus importantes. Mais c'est pas une espèce où on a remarqué un déclin important. Après, toutes les espèces, c'est cyclique. Il y a des années où vont bien se reproduire, d'autres années un petit peu moins. Donc voilà, mais c'est pas forcément une espèce en danger, quoi.
Bon, très bien. Merci beaucoup Evelyne pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci de nous rappeler. Elle a une très belle haie. On reparlera peut-être des haies parce que je crois qu'elles sont importantes justement pour les oiseaux. C'est important d'avoir une haie, un endroit où nicher.
Alors la haie, c'est pour nicher et pour se nourrir.
Et pour se nourrir. Donc voilà. Donc c'est quand même primordial. On va y revenir dans un instant. 05 59 59 17 17. Quelles sont vos dernières observations? Est-ce que vous avez remarqué des changements d'espèces dans votre jardin? Venez témoigner, venez nous raconter. 59 deux fois, 17 deux fois.
À votre service, vos témoignages.
On parle des oiseaux dans les jardins et on prend du plaisir parce que c'est le temps idéal aujourd'hui pour descendre au jardin, pour profiter du soleil et regarder ce qu'il y a autour de nous. Avec Stéphane Maury d'Egalaldia qui est notre invité ce matin. Et puis vous, Sylvie.
Bonjour Sylvie.
Dans les Landes. Bonjour
oui,
Sylvie.
Bonjour.
Bienvenue Sylvie.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Seignos, je crois, c'est ça?
Oui.
Vous voulez parler des rouges-gorges? Parce qu'on disait qu'on ne voyait plus beaucoup. Vous en avez dans les Landes, là?
Alors moi, j'ai une anecdote dans mon garage. Qui est un petit peu ouvert au-dessus, en fait. Il est fermé le bas et j'ai des petits barreaux en bois. Et en deux ans, j'ai eu un nid de rouge-gorge. Ah. Donc, voilà, je pense que c'est pas commun qu'il soit dans l'habitation. Et cette année, il me squatte l'étagère où je mets des épices, parce que c'est une petite cuisine d'été. Et voilà. Et pourtant, j'ai deux chiens dans le jardin, j'ai deux golden.
C'est génial, ça.
Et ça cohabite, voilà. Et donc, il y a quatre petits qui sont nés. C'est trop mignon.
C'est top. Alors, il faut pas quoi? Il faut peut-être pas les approcher pour pas les déranger, je sais pas.
Je rentre parce que j'ai quand même l'obligation d'aller
chercher les clés. Je me doute quand même. Mais c'est génial, Stéphane, ça, cette histoire, hein.
Oui, nous y allons discrètement.
Mais c'est génial.
Il y a la maman, je pense, ou le papa, je sais pas, qui m'a attaqué, en fait. J'y suis rentrée, puis j'ai eu un pic sur la tête, l'air de dire, fais attention à ce que tu fais là, ne t'approche pas trop, donc voilà. C'est trop drôle.
Alors c'est assez régulier d'avoir des rouges-gorges ou des rouges-queues qui nichent dans du bâtiment. Alors ça c'est... Bah, ils ont compris le truc, hein. Les conditions météo sont stables à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de grêle, il n'y a pas de vent. Donc, pour faire un nid, c'est assez facile. Et c'est des oiseaux qui sont assez malléables. Ils prennent l'habitude du comportement des humains dans les propriétés ou dans les jardins. Donc, quand on est chez soi, on se déplace plus ou moins tout le temps pareil, ou quand on va dans la grange, c'est tout le temps à des heures.
Il s'habitue au mouvement.
Il s'habitue au mouvement, ouais.
Très bien. Ouais, c'est une jolie histoire. Mais continuez à les garder comme ça, prenez-en soin, de loin.
Sans problème.
Merci Sylvie, merci beaucoup.
C'est
sympa.
Journée.
Merci, bonne journée. Jacques Abidard, bonjour Jacques.
Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors, c'est intéressant parce que vous êtes chasseur et des oiseaux, bah, vous n'en voyez pas beaucoup, ou plus beaucoup en tout cas.
Hein, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, cette année, le passage, il était un peu bizarre. Mais là où je chasse à Aetz, à partir du 15 novembre, j'y allais tous les matins, il n'y a pas un oiseau qui traîne. Mais pas un, hein. Il y a un vol de palombe d'une vingtaine, ça date à peu près. Mais après, on ne voit plus aucun oiseau. De n'importe quelle sorte que ce soit, on voit deux pics le matin qui passent à droite à gauche. Et après, deux rouges-gorges qui viennent quand il fait un peu froid. Mais il n'y a plus un oiseau. Avant, autrefois, on voyait des merles, des grives qui restaient dans le coin tout l'hiver, quoi. Et chez nous, à Aetz, il n'y a plus rien.
C'est inquiétant parce que moi, sincèrement, si on a choisi de faire cette émission, parce qu'on avait un peu la même constance, les populations sont en train de changer. Moi, je trouve que personnellement, il y en a moins. Stéphane, qu'est-ce que Jacques dit? Il regarde, il observe et il voit pas grand-chose quand même. C'est inquiétant, non?
Alors,
ça vous semble pas inquiétant?
Pour l'hiver, il y a les mouvements migratoires se sont atténués parce que comme il fait de moins froid, bah, les oiseaux, au lieu de descendre ou de migrer sur l'Espagne ou au-delà, bah, ils vont rester plus dans le nord. On voit cette année, les grues sont énormément rester en Allemagne, alors qu'elle descendait jusqu'en Espagne. Ouais. Pareil pour les grives, voir les populations de merles du nord de la France. Ça bouge. On voit des espèces aussi qui arrivent du sud, avec le réchauffement climatique.
Là, les... Donc là, qui remontent parce qu'elles ont trop chaud.
Ah ouais. Bah, nos collègues espagnols, italiens donnent, maintenant, on a des données de plus en plus importantes de tourterelles d'Afrique du Nord. Mmh. On a même des vautours africains maintenant qui sont sur le sud de l'Espagne et de l'Italie. Trois espèces de vautours africains. Donc on a des décalages dans tous les sens au niveau de la biodiversité en général. Là, on l'a vu avec les vents de sud, on a eu du criquet égyptien qui arrive. On en voit un petit peu partout. Il va se passer des phénomènes, je pense, on ne les comprend pas. Je vais être franc avec vous, malgré les grands discours qu'il y a, on voit des tendances, on voit des, les oiseaux de plaine qui nichent principalement au sol, eux, ils disparaissent. L'alouette et tout ça, on a vraiment des effondrements de population. Et avec notre urbanisation, nos modes de gestion, je reviens au jardin ou aux espaces verts, on plante des plantes exotiques, il y a plus, la ressource alimentaire, elle diminue, et nos massifs forestiers sont gérés comme une pépinière. Donc, on va entretenir les arbres qui sont rentables, mais on va pas laisser les pommiers, les poiriers sauvages qui apportent de l'alimentation pour toutes les espèces d'oiseaux principalement, quoi.
Ouais, ça c'est ce qui se passe à Aix. Il y avait des vieux pommiers, toute une allée de vieux pommiers, mais qui donnaient pas de pommes. Enfin, ils en donnaient, mais elles étaient ou trop mûres ou pourries. Et là, il y avait toujours des grives, des merles qui restaient tout l'hiver. Après, on avait en face de là où on chasse, il y avait un champ où ils font du maïs. Autrefois, ils coupaient le maïs, ils ramassaient l'encinage, ils laissaient la base du pied de maïs avec des mauvaises herbes et tout ça. Et là, il y avait toujours des oiseaux qui restaient de toutes sortes. Hein. Pas forcément des oiseaux qu'on chassait, mais on les voyait. Quoi. Et là, maintenant, ils n'ont pas ramassé le maïs. Ils ramassent le maïs, deux jours après, ils donnent un pet de machine. La terre, elle devient, dès qu'il pleut un peu, ça devient comme une dalle de béton presque. Et là, les oiseaux, ils s'arrêtent plus. Hein. Et puis, ils restent pas, ils n'ont rien bouffé.
Bah, le problème aussi pour les oiseaux, c'est qu'en période de reproduction, pratiquement toutes les espèces ont besoin de protéines pour nourrir leurs petits. Donc la base au printemps de l'alimentation de même du moineau, c'est des insectes. Donc on le voit, il y a une chute des insectes phénoménale. Donc toutes ces espèces-là ont du mal à mener leur reproduction jusqu'au bout et leurs jeunes à l'envol, quoi.
Malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait a une influence directe après sur la population, sur les oiseaux qui nous entourent.
Tout ce qu'on fait.
Nos choix ont, ont un impact direct sur l'environnement. Merci Jacques pour ce témoignage. Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
C'est très intéressant.
Bon courage.
Dans un instant, c'est Jean aussi qui va nous rejoindre au téléphone. Il observe le comportement des oiseaux depuis l'enfance. Il a des choses à nous raconter. Et puis vous aussi, qu'est-ce qui se passe dans votre jardin? 05 59 59 17 17.
France Bleu Pays Basque, à votre service, avec Stéphane Clavry.
On profite du beau temps du soleil pour descendre au jardin et regarder les oiseaux qui nous entourent, parce que depuis plusieurs années, les scientifiques nous alertent sur le déclin inquiétant de la biodiversité. Mais vous, qu'est-ce que vous observez chez vous? Est-ce qu'il y a des oiseaux que vous ne voyez plus? Est-ce que vous faites partie de ceux qui nourrissent les oiseaux l'hiver? Et vous avez peut-être du recul, 20, 30, 40 ans de recul. Venez témoigner, nous passons un petit coup de fil ce matin. Jean à Combeau-les-Bains, bienvenue avec nous. Ah. Alors c'est quel oiseau ça? Bonjour Jean.
Bon.
Qu'est-ce que c'est comme oiseau?
Bonjour tout le monde.
Qu'est-ce que vous nous avez fait comme oiseau là?
Un petit peu de tout.
Un peu de tout, d'accord.
Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit là. Je vois
tant mieux.
Là, il est connaisseur. Alors, ce que je trouve, moi, même la dame du Bacambo, là aussi, c'est un peu le style de ma femme, elle le fait comme ça. Mais moi, ici, c'est un peu différent. J'ai 2 hectares, j'ai un bois pour les oiseaux, j'ai un bassin pour le martin pêcheur, les ronds cendrés, tout ça. J'ai des nichoirs pour les mésanges. S'il y en avait une dizaine, il y a quelque temps, qui étaient pleins, pourtant je les nettoie à cause, quand ils refont les nids, il faut que tout soit propre, à cause, quand les petits naissent, il y a les bactéries qui peuvent les tuer. Et j'observe là, cette année, je suis sûr que je n'ai pas 3 nids pleins de mésanges. Alors les mésanges, c'est intéressant parce qu'elles ramènent toujours des petits verts gris, là, des petites chenilles grises. Et c'est bon, j'ai le jardin aussi là, j'ai le jardin. Alors j'observe tout ça, des merles, bien sûr que j'en ai quelques-uns, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai la chance d'avoir 2-3 nids de chardonnerets. ça se maintient.
Ah, voilà. Ça, c'est pas mal.
Et Charles Donneret, oui. C'est bien. Ouais. Pourquoi c'est pas voilà. mal, ça? Pourquoi Stéphane Henry des Galaldia.
On en voit quand même de moins en moins. On en voit l'hiver parce qu'il y a des vols de migratoires qui arrivent. Mmh. Mais en sédentaire, on a quand même... moi, je le vois, j'habite Irisari, en 15 ans, le nombre de couples a complètement chuté dans le secteur. Ouais.
D'accord.
Voilà, déjà, sur ça, je suis très content. Bon, les merles, ici, j'en ai... pas me plaindre, j'en ai aussi des nids, bon je les range pas, ça ne me gêne pas. Le loriot, par contre le loriot.
Ouais, le loriot, on l'entend quand même pas mal en ce moment. Est-ce que, voilà. Par curiosité, est-ce que vous avez du bouvreuil?
Alors, les bouvreuils, j'en ai eu un couple et je ne les vois plus.
Ouais.
J'avais un couple qui tournait autour de la bergerie, parce que j'ai des brebis là, et même d'habitude j'ai toujours les queues rouges, j'en ai pas non plus cette année.
Ouais,
alors c'est ça que c'est inquiétant quand même. J'avais toujours deux nids de queues rouges parce que c'est marrant, elles sont à côté, elles font le nid tout là. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, comme les faisans.
Ouais.
Quand je viens ici, il ne faut rien changer. Ils vous voyaient passer, ils se disaient, bon voilà, il n'est pas méchant celui-là, il ne bouge pas, et les oiseaux ne bougent pas. Si jamais quelqu'un d'autre vient, ou des enfants qui courent un petit peu, le comportement n'est plus pareil.
Ouais, ils s'habituent au mouvement des personnes qui sont dans leur jardin.
Exactement.
Ouais.
Bien sûr,
c'est exactement
bien sûr,
ça.
Bien sûr.
Mais
alors... alors ici, comme j'ai de tout, je pourrais, si ça vous intéresse, vous montrer.
Oui, alors Jean, on va pas avoir le temps, parce qu'il y a beaucoup de monde derrière qui veut prendre la parole.
C'est formidable,
l'écrire, mais...
c'est formidable.
Vous avez 2 hectares de terrain, on pourra en parler pendant des heures, il n'y a pas de problème.
C'est sûr, mais c'est sûr.
Mais voilà, j'en reviens toujours sur les mésanges et tout ça. C'est la base, la disparition des insectes qui jouent sur toutes les populations d'oiseaux, de toute manière. On en revient toujours à la nourriture.
Mais Jean, on a bien entendu que vous êtes un passionné. Qu'est-ce que vous pourriez nous faire comme imitation, là, pour finir, là? Qu'est-ce que vous avez dans le... sous le coude, voyons.
Bah, ben souvent, c'est beaucoup. Le maire, il a fini un petit peu de chanter. Je sais pas si ça va.
Ouais, moi, je préférais le précédent, moi. Je préférais le précédent.
Ouais.
Était mieux le précédent. Était plus abouti, je trouve. Ouais. Ah. Ouais, celui-là, il est joli. Celui-là, il est pas mal. Merci, Jean. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt merci. Tiens, voilà, la prochaine imitation, c'est avec Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde.
On va parler des oiseaux avec vous, évidemment, et de ce que vous avez vu sur le net. Il existe des milliers d'espèces d'oiseaux, en fait, dans le monde, hein, c'est fou.
Oui, et en France, il y a plus de 600 espèces. Chacune a ses propres caractéristiques, ses comportements et aussi ses habitats.
Et chez nous, au printemps, on peut observer une très grande variété d'oiseaux.
Oui, il faut dire qu'ici, voilà, entre territoire de montagne et territoire maritime, il y a de nombreuses espèces, alors soit qui vivent ici à l'année, soit qui s'arrêtent quelque temps au cours de leur migration.
Et parmi les messages laissés sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque, il y a celui de Violette.
Chez elle, il y a des tourterelles, des moineaux, des merles, quelquefois des hirondelles. Elle aperçoit aussi le milan volé autour d'elle. Et chez Marie, il y a des petits merles et, chose rare, dit-elle, un rossignol.
Qu'est-ce qu'on entend derrière, Stéphane, là?
Ah, goéland, là.
C'est goéland, ça.
Oui, il est arrivé.
On va parler de goéland, d'ailleurs, dans quelques minutes. Il y a Claude.
Très intéressant, les goélands.
Ouais, Claude qui va nous parler de goéland, ça va être intéressant. Chez Peyo, il y a aussi plusieurs espèces.
Moineaux, chardonnerets, pigeons, roitelets et grettes. Et apparemment, il y a de plus en plus de palombes ici.
Michel nous écoute depuis Aix-en-Provence.
Et les oiseaux qu'elle aperçoit sont nombreux. Des mésanges bleus, charbonnières, huppées, des chardonnerets, un couple de ramiers, des corbeaux, des pies. Bref, chez elle, c'est le paradis des oiseaux.
Ça va être magnifique, effectivement. Puis, pour finir, Isabelle, je crois que vous avez repéré un bouquin qui va plaire aux amoureux des oiseaux.
Il s'appelle Les oiseaux du Pays Basque. C'est un guide illustré qui est paru chez Geste Édition. Les oiseaux nous rappellent la beauté de l'envol et la valeur de la liberté. Et je terminerai avec ce proverbe, vous voulez des oiseaux, plantez des arbres.
Voilà, planter des arbres, c'est la base.
Exactement
pour
ça.
Qu'ils nichent, pour qu'ils se nourrissent. Quoi.
On a un impact direct sur l'environnement, sur l'écosystème, avec ce qu'on fait dans notre jardin.
Vous parliez des haies tout à l'heure, typiquement les haies qu'on détruit, forcément, les oiseaux...
On appauvrit tout ça, ouais.
Les haies qu'on détruit pour le remembrement dans le monde agricole. Oui. Après, ici, pour connaître beaucoup d'autres régions de France, on est encore gâtés. Nos agriculteurs font quand même relativement attention à leur terre. Ça, c'est vital. Par contre, le particulier à une emprise sur le territoire de plus en plus importante avec l'urbanisation. Et c'est vrai que si on pouvait arrêter les haies de laurier ou de sapinette et planter un peu plus de variétés sauvages, entre guillemets, l'exotisme, c'est joli dans un jardin botanique ou des choses comme ça, mais amener de l'exotisme à 100% dans son jardin, c'est tuer la biodiversité.
C'est que c'est très beau les haies avec plein de variétés. Hein,
oui,
oui, voilà, du cornouiller, du pommier sauvage, et accepter que ces haies-là soient un petit peu folles. Oui. La biodiversité, c'est accepter un peu de folie, un peu de branches qui partent à droite à gauche et pas un blocos taillé au carré, quoi, malheureusement.
C'est vrai, c'est vrai. Pas le jardin à la française, hein,
Oui, jardin anglais, c'est mieux, des fleurs, des papillons, et puis c'est plus reposant.
Merci beaucoup, Isabelle. On vous laisse repartir au jardin tranquillement. On continue votre balade. Nous, dans un instant, c'est Maïté et Claude que nous allons accueillir.
France Bleu Pays Basque, à votre service.
On est au jardin, on observe discrètement, sans les déranger, les oiseaux. Bonjour Maïté, puis après on aura Claude. Bonjour Maïté. Bienvenue avec nous, Maïté, vous êtes là ?
Bonjour Maïté.
Rapprochez-vous de votre téléphone, Maïté.
Oui, je vais arrêter la radio.
Ah bah oui, c'est bien, ça serait bien. Vous avez, voilà, vous avez un nichoir, expliquez-nous, un nichoir dans votre jardin, c'est ça ?
J'ai plusieurs nichoirs.
Oui.
Des mésanges bleus.
Oui.
Il y a une... comment dire, c'est pas un nichoir, c'est des queues rousses qui viennent se loger sur les poutres de la maison.
Qu'est-ce que c'est ça, cet oiseau, cette forme horrible des Galagia ?
C'est les rouges-queues.
Par contre,
c'est
les rouges-queues. Cette année,
oui.
Ce qui est extrêmement... il y a des chardonnerets.
Oui, des chardonnerets, ouais.
Voilà. Après, les rouges-queues, c'est comme les rouges-gorges. Ils vont nicher dans le bâti assez régulièrement.
Oui, mais elles reviennent.
Oui, elles reviennent. Après,
elles reviennent tous les ans. Et par contre, la première fois cette année, c'est des chardonnerets qui viennent.
D'accord. Bon, c'est que dans les environs, il y a quand même un peu de graminées et de ressources alimentaires. Après, sur les oiseaux, il faut savoir que il y a une crise du logement au Pays Basque pour les gens. Il faut le dire, quand même. Alors donc, installer des nichoirs, c'est bien. Il faut vraiment faire attention aussi parce que souvent, les nichoirs qu'on va installer dans nos jardins, ça va être toujours à peu près les mêmes types de nichoirs. Ça va être pour les mésanges. Mm-hmm. Parce que la mésange, c'est une espèce qui, dès qu'il y a un nichoir, elle va s'installer dessus. Ouais. Mais plus on va installer des nichoirs pour cette espèce, plus l'impact sur les chenilles de papillons va être importante. Donc il faut faire des mixtes, mésanges, d'autres espèces. Il y a plein d'espèces qui peuvent nicher en nichoir, même des nichoirs à martinet. Nos maisons, nos constructions ont moins en moins de fentes. Et pareil pour les martinets, il y a une très grosse crise du logement.
On parlait de goélands. On va remercier Maïté. Merci Maïté pour nous avoir appelé. On parlait de goélands tout à l'heure. Il y a Claude qui a des goélands, je crois, en face de chez lui. Bonjour Claude.
Bonjour Claude.
C'est ça ?
Oui, bonjour Stéphane.
Ils sont beaux, ces goélands que vous avez en face de chez vous, là ?
Ils sont magnifiques. En plus de ça, ils sont en train de couver, actuellement. Et ça fait des années que je leur donne à manger, naturellement. Mais j'ai un problème pour la nourriture. Quelqu'un m'a dit, tu ne devrais pas de leur donner du pain.
Non, il faut absolument pas donner du pain aux oiseaux. Ça leur pose des gros problèmes de digestion. Ça peut même certaines espèces les tuer. Et faites attention parce que le goéland, c'est une espèce qui est très intelligente et qui commence entre guillemets à poser des soucis. Mais ces soucis-là sont causés à cause de l'humain. Moi, quand je suis arrivé au Pays Basque il y a une vingtaine d'années, les goélands nichaient sur les rochers en face de l'hôtel Miramar et tout ça. Et on l'a constaté, dû au dérangement, je m'excuse pour les touristes, mais dès qu'il y a la marée basse, les touristes escaladent tous ces rochers-là, et les goélands, d'année en année, leurs petits sont tombés à l'eau, soit sont morts, soit nous, on les a récupérés sur la plage. Et comme ils ont compris que tous les ans, ils étaient dérangés, ils viennent s'installer maintenant sur la toiture. Et c'est des animaux très territoriaux. Tous les ans, on a des appels de particuliers qui nous disent, là, je rentre dans la cour, j'ai un pilote de chasse au-dessus de ma tête qui me cogne, qui essaye de me virer, quoi, tout simplement. Donc les goélands installent un périmètre de sécurité autour de leur nid et vont attaquer les humains pour défendre leur progéniture. Donc il y a le dérangement humains sur des zones historiques de reproduction. Donc là, maintenant, il y en a de moins en moins sur ces sites-là. Ils viennent sur les toitures et on voit. Hein, moi, j'ai beaucoup de gens qui appellent à l'association pour dire ça nous dérange. Alors,
est-ce que Claude, il faut qu'il continue à nourrir ses goélands ou il faudrait
Non, il faut vraiment pas les nourrir, madame, parce que quand leurs petits vont sortir du nid, les adultes vont les amener au point de nourrissage et ces animaux-là vont être stéréotypés. Comme pour les mangeoires, les petits vous savent que tous les jours
ils pourront plus faire sans être nourris, voilà, c'est ça. Ils sauront plus faire.
Et
c'est ça qui est embêtant.
Ils vont être
dépendants.
On le voit en Bretagne, hein, certains secteurs, les goélands maintenant attaquent les gens qui ont des casse-croûtes dans la main.
Oui, ça on le voit régulièrement. Ouais.
Donc ça, il faut casser ce comportement-là parce que après, ça sera préjudiciable pour l'espèce, parce que les gens vont se plaindre, on se fait attaquer par les goélands et tout ça, et il y aura des mesures qui seront prises au détriment de ces oiseaux. Donc vraiment éviter. Il y a de la nourriture sur le littoral. Après, on sait que les goélands, de toute manière, c'est des goélands locophées. La base de leurs ressources alimentaires, malheureusement ici, c'est la décharge de Saint-Pé-sur-Nivelle, quoi.
Ah ouais. Merci beaucoup.
Merci Claude.
Je vais arrêter.
S'il vous plaît, pas de pain. Pas de pain. Même du bio, mais ni du bio, ni de l'industriel, mais pas de pain.
Merci beaucoup Claude.
Merci beaucoup.
À bientôt. Merci.
Au revoir Claude.
René, vous êtes à Bardos, je crois. Bonjour René.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous observez beaucoup d'oiseaux chez vous? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a eu des changements ces dernières années en tout cas?
Moi, c'est grandes résidences chez moi. Déjà, j'ai 3 nichoirs. J'ai 2 nichoirs qui sont occupés par des mésanges bleus.
Ah oui.
Un qui est occupé par des mésanges charbonnières. J'ai un cyprès de Provence et j'ai un nid de chardonneret. J'ai des massifs avec des fusains. Et là-dedans, j'ai un nid de merle. J'ai un merle, ça fait 3 ans que je l'ai repéré parce que le merle, c'est un merle noir. Et il a une plume blanche sur une aile. Donc, je sais que c'est son territoire. Et cette année, pour la première fois, j'ai un nid de pies en haut d'un sapin.
Des pies?
Elles viennent de finir le nid.
D'accord, ouais. Ok.
Ah oui. Oui, les pies en milieu urbain, c'est commun, oui.
D'accord, ok.
Il n'y a pas de problème.
Je m'étonne de tout, mais.
Non.
D'accord, je pensais que c'était. D'accord, ok, très bien.
Bon, après.
Est-ce que vous avez. Mais surtout, ce qui est intéressant, René, c'est de nous dire en quelques mots si vous avez remarqué des changements. Est-ce que ces dernières années, vous avez l'impression que les populations ont changé? On ne voit plus les mêmes oiseaux?
Le souci, c'est que maintenant, ça fait 10 ans, je ne vois plus de moineaux. 10 ans que je vois plus un seul moineau.
Et les petits moineaux, c'est vrai.
Les moineaux, il faut faire attention. Il y a 2 espèces de moineaux. Les gens pensent qu'il n'y a qu'une seule espèce.
Ouais.
Donc on a le moineau domestique, c'est l'espèce la plus courante, on va dire. Ouais. Et le moineau friquet. Le moineau friquet, il est totalement effondré, cette espèce. On en trouve presque plus sur le Pays Basque. Et je vais mettre ce qui serait intéressant, il y a l'agglomération qui met en place un plan biodiversité. Ce qui serait intéressant pour augmenter la biodiversité au sein de l'agglo et dans les milieux urbains et périurbains, c'est qu'on aménage aussi nos parcs, la végétation qui est autour des parkings et tout ça, avec, je reviens à ce que j'ai dit plusieurs fois, mais arrêter les plantes exotiques, essayer de faire un mixte. Je suis pas 100% pour qu'on plante que des plantes sauvages et qu'on laisse pousser la ronce partout, mais essayer de limiter les plantes exotiques. Il y en a qui vont être très belles et qui peuvent être aussi favorables à la biodiversité, mais faire un mix un petit peu avec nos arbustes, nos plantes qui poussent ici et qui sont nourricières pour les insectes et pour les oiseaux, quoi.
D'accord. Okay. Ouais, c'est passionnant. En tout cas, le milieu, les observations qu'on peut faire, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Merci beaucoup, René. Merci pour votre participation ce matin. On va revenir sur justement la densification des constructions dans un instant, parce que Jean veut s'exprimer à nouveau sur le sujet. C'est avec lui d'ailleurs qu'on terminera l'émission. Voici Beñat Higuerabide à 9h50. Et merci d'écouter France Bleu Pays Basque. Il fait beau. C'est presque le week-end. Tout va bien. Merci d'être là. On observe les oiseaux au jardin ce matin avec Stéphane Maury des Galaldia et puis vous au téléphone Jean qui est à Ustaritz. Bonjour Jean.
Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Vous allez nous dire que le problème c'est les constructions, c'est la densité de la population et du bâti partout. Hein
oui, Oui, entre autres. Oui, moi j'habite un quartier, mais il y a moins d'une génération, nous étions 100 habitants. Aujourd'hui, le jour, on est à plus de 1500 habitants.
Waouh.
Moi, je pense que la densification et l'apport de population fait que la nature, elle recule. Ça, c'est une certitude. Ici même, dans ce quartier, bon, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ont disparu parce que tout simplement, on a trop construit. Vous prenez par exemple les hauteurs de la Ressource, c'était une zone vraiment boisée agricole. On a construit une zone artisanale, on a construit des dizaines et des dizaines de maisons, et toute une population d'oiseaux a carrément disparu de la zone urbaine, elle est partie vers l'intérieur, et là on se retrouve avec des nouvelles populations d'oiseaux qui apparaissent en zone urbaine, vous l'avez dit tout à l'heure, les pies, les tourterelles, toutes ces choses-là, mais les chardonnerets, les bouvreuils, tous ces oiseaux-là, ils ont carrément disparu, moi je n'en vois plus, mais plus un, voilà. Et ensuite, excusez-moi, il y a également le gros problème de tout ce qu'on nous impose. On nous impose, certes, les insectes, vous l'avez dit, ont disparu, mais pourquoi ils ont disparu? Parce qu'on oblige, par exemple, les agriculteurs à stocker leur fumier dans des zones abritées, sur des dalles béton, alors qu'avant, ici même dans le quartier, vous aviez des tas de fumier, et bien les insectes étaient là, les oiseaux étaient là, et aujourd'hui le jour, on construit, on ne peut plus avoir un tas de fumier parce que voilà, ça gêne. Mais c'est tout ça qui fait que la nature, elle recule. Et il faut qu'on se prenne conscience que nous sommes tous responsables. Ouais, voilà.
Pourra en discuter pendant des heures. Moi, j'aime bien un bon tas de fumier, mais le problème, c'est que les volumes de fumier ne sont plus les mêmes. On laisse les jus partir dans les fossés, dans les rivières, on va avoir des pollutions aussi, donc c'est normal un petit peu de normer. On n'est plus dans un contexte de petites fermes un peu dans le temps, où on ouvrait les tables pour que les hirondelles puissent rentrer.
On est dans
des gros volumes, avec des hangars aussi industriels pour certains exploitants. L'urbanisation... Alors, la densification, moi je suis pas contre. On voit dans d'autres pays, il y a des modèles de densification urbain qui prennent en compte la biodiversité, où on peut maintenir certaines espèces. Par contre, où j'ai un problème, c'est sur l'étalement urbain. Plus nos villes s'étalent, nos villages deviennent aussi des cités trottoirs, hein, pour les gens qui viennent s'installer. L'étalement urbain pose des problèmes parce que en même temps, il y a les routes. Plus on densifie le système routier, on le voit à l'assaut, hein. Tous les jours, on rentre des oiseaux qui sont fracassés par les voitures, aussi bien des passereaux que des rapaces et des mammifères. Donc, plus le réseau routier est dense, plus il y a de la mortalité, de toute manière, sur la faune. Moi, tous les jours, je fais Irisari, Ustaritz pour aller sur le centre de soins et Galadia. Tous les jours, je vois des animaux morts, parce qu'on a une circulation dense et tout ça.
Absolument. Ouais.
Compliqué. On pourra en débattre pendant des heures. On va s'arrêter là parce que c'est la fin de l'émission. Mais Jean, en tout cas, merci pour votre appel. Merci beaucoup. J'aurais voulu qu'on parle aussi du parc noptère qu'avait Michel à Itsassou, je crois, parc noptère d'Égypte. C'est un petit vautour d'Égypte, je crois.
Ouais,
c'est super rare. Bravo. Parce que
Michel n'aura pas le parc noptère dans un nichoir. Hein, ça, je vous rassure. c'est un petit rapace. C'est un vautour qui migre entre l'Afrique et on a pas mal de couples encore en zone Pays Basque qui est en voie de déclin. Et c'est une donnée très très intéressante, donc qu'il y fasse attention et qu'il veille sur eux, c'est une pépite, cette espèce.
Merci beaucoup Stéphane Maury.
Merci à vous.
Et Galaldia, vous êtes à
Ustaritz, et on est toujours là.
Et on peut vous appeler si on a besoin.
Quand vous voulez, 7 jours sur 7.
Merci beaucoup Jean également, merci à tous d'avoir participé à cette émission. À très bientôt, bon week-end, merci beaucoup.
Adio.
Au revoir, et vive le jardin.